Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene.
Alors aujourd'hui, donc, ce sera le dernier cours de cette série consacrée à la graphicatie, la perception des graphiques. Et je voudrais essayer de rassembler les différents éléments qui ont été donnés dans les cours précédents pour parler en particulier du plus important, c'est-à-dire l'accès au sens des graphiques et surtout comment on peut améliorer l'éducation au graphique. Et c'est pas un sujet sur lequel les idées sont complètement figées, loin de là. On a besoin de retour là-dessus et j'espère qu'on pourra avoir une période de discussion à la fin de ce cours. Alors, voilà la question, hein. Je vous ai montré plusieurs fois des graphiques de ce type. Il faut être capable de comprendre rapidement de quoi il s'agit, à quoi correspondent les axes, comment sont organisés les points de données, comment sont les courbes, comment organiser ces données mentalement, est-ce qu'il y a des outliers, on avait vu ça la semaine dernière, est-ce qu'il y a des données anormales, etc. Pour commencer, je vous propose de regarder comment ces choses sont testées dans l'enquête internationale TIMSS, et en particulier en CM1, parce que on se concentre, au moins dans mon laboratoire, sur le premier degré, le primaire. Et c'est intéressant de voir que l'enquête TIMSS, vous savez que la France a de mauvais scores, hein, nos élèves ont des difficultés par rapport à d'autres pays européens, et dans le monde entier, on est pratiquement les derniers de l'Europe sur cette enquête TIMSS. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 20% des points viennent des graphiques. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va voir que dans les manuels français, il y a à peu près 4 ou 5% maximum du temps qui est consacré au graphique. Donc il y a vraiment un décalage intéressant là. Et je pense que l'enquête TIMSS a tout à fait raison de dire que dans la société d'aujourd'hui, il y a énormément de graphiques, on y fait beaucoup appel dans toutes sortes de médias, et que les étudiants doivent comprendre ce que sont ces graphiques, ces données, doivent pouvoir arriver à leur sens. Et ils insistent sur plusieurs domaines, ils divisent le domaine en deux, lire et être capable de produire des données, des graphiques de données, et puis interpréter, combiner, comparer des données, résoudre des problèmes à l'aide de graphiques de données. Voilà. Donc c'est vraiment la science des données qui est mise en valeur ici, et dans le domaine de la lecture, donc il donne une liste de types de graphiques qu'on doit être capable de comprendre et de créer, et puis un certain nombre de capacités d'opérer avec ces graphiques, d'interpréter les données, vous les trouvez ici. Alors, on va prendre quelques exemples. Vous passez Teams, là. Le premier n'est pas trop difficile, CM1. J'ai pris que des problèmes de CM1. Vous voyez que là, le problème, c'est de lire ce graphique, de voir qu'il y a le niveau d'eau en fonction de la semaine dans un barrage, et on vous demande quel est le niveau d'eau pour la semaine 8. Ça a l'air évident, hein. Sauf que, déjà là, on a quand même que 68% des élèves de CM1 français qui arrivent à résoudre ce problème. Donc, c'est moins que la moyenne européenne. Simplement la question d'accéder à un point de données. Mais on verra que c'est quand même le cœur des graphiques, hein, comprendre que chaque point de données correspond à deux valeurs et qu'en trouvant l'une, on peut trouver l'autre. Ici. Autre problème, je vous laisse le lire. Le tableau montre les poids de 4 ours. Bon, les types d'ours, malais, panda, noir, brun. Et vous découvrez le graphique en bas et on voit qu'il n'y a que 2 barres. Il manque des barres pour les pandas et pour les ours noirs. Alors il faut compléter les barres, il faut les dessiner sur l'ordinateur ici. Et c'est pas difficile non plus, une fois qu'on a compris la correspondance entre un tableau et un graphique, les élèves français sont encore à 71% corrects. C'est pas trop mal, mais c'est quand même moins que la moyenne européenne. Encore un autre problème ici. Ah oui, là c'est plus intéressant, hein. Vous avez un tableau à gauche, toujours l'idée qu'on doit comprendre la correspondance entre le tableau de données et le graphique. Et donc là, vous avez le nombre de voitures pour chaque jour qui sont passées dans une rue donnée. Et à droite, vous avez un graphique qui montre ces données, sauf qu'on voit qu'il n'y a pas les nombres sur l'axe des Y. Et c'est un peu inhabituel, mais il faut compléter les nombres sur l'axe des Y. Et alors voilà la performance des élèves français. Là, c'est quand même très préoccupant. Et c'est pas loin de 2/3 ou même la moitié de la performance de réussite des élèves européens, hein. Ils arrivent à mettre les 2 premiers points de données et encore, vous voyez, 40%, hein, alors que c'est donné directement par la barre pour mardi et par la barre pour jeudi. Et puis pour la barre du haut, ben, il faut quand même réfléchir, il faut comprendre qu'il y a un axe linéaire, il faut faire des soustractions ou des additions pour arriver à 12, il faut comprendre une progression arithmétique et tout ça n'est pas bien compris, on n'arrive qu'à 24% de réussite sur ce troisième item ici. Mais on voit bien la combinaison de concepts qui est nécessaire et qui ne va pas de soi pour un élève de CM ici. Alors, j'essaye d'arriver à une progression de ce qu'il faudrait savoir pour comprendre les graphiques. On a vu qu'il y avait tout un aspect perceptif. Il faut être capable de percevoir les tendances sur un graphe, et notamment sur un graphe en XY. Il y a une notion de grammaire des graphiques, il faut être capable de l'organiser, comprendre le rôle de la légende, comprendre le rôle des axes. Tous ces éléments graphiques n'ont pas le même rôle. Et puis, il y a cet aspect conceptuel, et là, je pense, la clé, hein, c'est la correspondance nombre-espace, la notion d'échelle linéaire, mais surtout, surtout, l'idée qu'un point de données peut représenter deux nombres. Ça, c'est difficile pour les enfants. Et c'est la clé de cette invention des graphiques, hein, capable de représenter un grand ensemble de données, parce que chaque point va représenter une entrée dans un tableau à double entrée. Voilà. Ensuite, on peut comprendre que la relation entre ces points a du sens, que par exemple, elle représente une croissance, que si la variable en x croît, la variable en y croît, et puis il peut y avoir des relations plus compliquées, une grammaire des fonctions linéaires, des fonctions quadratiques, etc. Et tout ceci doit permettre de faire une correspondance sans cesse entre ce que je vois et les données correspondantes, être capable de reconstituer le tableau de données, ce qui est exigé par beaucoup de ces exercices à Teams. Ça implique aussi une certaine notion de statistique. Ce que je vois, est-ce que c'est juste un nombre, une donnée, ou bien est-ce que c'est une moyenne de plusieurs données? Est-ce que je peux calculer la moyenne parce que je vois plein de points de données? Est-ce que je peux comprendre la variabilité? On avait vu la semaine dernière que les adultes sont capables d'extraire la tendance d'un nuage de points et dire il y a la corrélation est assez faible ou au contraire elle est très forte. Voilà. Et puis un dernier point qui est peut-être pas assez enseigné et sur lequel notre Conseil scientifique de l'éducation nationale a publié un gros document que vous pouvez trouver en ligne gratuitement, hein, sous la plume d'Elena Pasquinelli et Gérald Bronner, c'est l'éducation à l'esprit critique et notamment pour les graphes, ce qu'on pourrait appeler graphic alertness, hein, l'alerte aux biais que peuvent présenter les graphiques, donc la compréhension de ces biais et la compréhension des manipulations de données qui peuvent survenir. Voilà une sorte de programme de ce qui serait nécessaire pour pouvoir commencer à passer convenablement ces tests de Teams. Ça va un peu plus loin, hein, les formes quadratiques, c'est peut-être pas la peine de faire ça en CM, c'est pas demandé dans les programmes, mais j'essaye de constituer une sorte de programme idéal ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les cours précédents, on a vu qu'il y avait déjà un certain nombre de ces éléments qui étaient intuitifs pour les enfants. La perception des tendances, c'est intuitif. On est capable de voir si le nuage monte ou si le nuage descend. D'accord ? Donc au niveau strictement perceptif, ça existe déjà. La correspondance nombre-espace, ça n'est pas dépourvu d'intuition pour les enfants. C'est quelque chose qui est relativement spontané. On a vu qu'ils le pensaient plutôt en termes logarithmiques, qu'il fallait vraiment penser à la ligne numérique linéaire, mais il y a le début d'une correspondance. Et puis la grammaire des fonctions, c'est ça que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Il y a là aussi des éléments qui sont déjà en place chez les enfants. On peut s'appuyer sur leurs compétences graphiques. Tout ceci existe dans un niveau, disons, perceptif, abstrait. Voilà. Et il va falloir l'engager pour être capable de représenter des données. Et donc, en miroir, hein, tout ce qui reste entre les éléments que j'ai soulignés ici, eh bien, ce sont les points clés qu'il va falloir enseigner. Et enseigner de façon explicite. Et en particulier, l'idée qu'un point de données peut représenter deux nombres. Alors, on va donc regarder, je vous ai déjà parlé des deux premiers points, je vais vous parler du troisième point, la grammaire des fonctions. Il y a déjà une grammaire des fonctions chez l'enfant. La semaine dernière, je vous avais montré ces données chez l'adulte, hein, qui montraient par exemple qu'on pouvait demander à des adultes d'extrapoler des données. On leur montrait une courbe sur la gauche ici, et puis on demandait de placer un point sur un axe vertical en imposant le point en X. Donc ici, vous avez deux possibilités, suivant les essais, et les sujets réglaient la hauteur en Y pour essayer de placer le point sur la courbe extrapolée à gauche. Et on avait vu qu'ils étaient capables d'extrapoler des courbes linéaires, bilinéaires, quadratiques, sinusoïdales, avec beaucoup de succès. Alors la question, c'est est-ce que les enfants comprennent ça ? Et on s'est dit, on pourrait peut-être faire cette tâche d'ajustement d'un point, mais enfin c'est quand même très abstrait pour les enfants d'ajuster un point comme ça. Et après réflexion, avec Lorenzo, Ciccione et Marie Lubino, Théo Morfois, on s'est dit qu'il y avait une possibilité intéressante, c'était d'utiliser la capacité qu'ont les enfants de dessiner des courbes. Dans le cours précédent, j'avais insisté sur ce caractère très abstrait du dessin. Alors, on a créé un test nouveau que je vous soumets ici. L'article est soumis également. On présente sur une feuille de papier, dans la moitié gauche de la feuille de papier, une courbe, qui peut être, par exemple, celle que vous voyez là, un zigzag qui décroît. On demande à l'enfant de tracer cette courbe avec un stylo, et puis, On lui dit, bah, continue. Et c'est aussi simple que ça, continue. D'accord. Mais continue, ça veut dire, bah, quelle est l'extrapolation, qu'est-ce qu'il faut faire réellement à droite. Et ici, l'enfant continue convenablement à faire une courbe qui oscille, un zigzag avec l'amplitude qui diminue. Avec cette situation particulière que j'ai choisie ici est intéressante parce qu'il y a une sorte de combinatoire de plusieurs fonctions. Hein. Il faut comprendre que l'amplitude décroît, mais dans le cadre d'un zigzag. Alors voilà tous les courbes qu'on a présentées aux enfants, des lignes qui peuvent être droites, croissantes ou décroissantes, constantes, des quadratiques, des fonctions oscillantes qui peuvent être des sinusoïdes ou des zigzags, ce n'est pas la même chose, hein, une courbe versus des segments de droite, ou également des boucles dont l'amplitude ou la fréquence peut changer, et puis des escaliers et aussi des formes géométriques. Alors, je ne vais pas rentrer dans un immense détail, mais vous dire donc qu'on arrive à quantifier ces données. Donc, la première chose, c'est que vous avez la partie de gauche où l'enfant retrace la courbe. Il le fait toujours bien, donc ça, c'est facile. Et l'idée, c'est évidemment que ça le force à comprendre hein, la courbe qu'il voit. Ça le force à analyser en grand détail la courbe qu'il voit. Et puis, sur la partie droite, on demande à des observateurs, indépendamment l'un de l'autre, de quantifier, sans avoir vu la partie gauche, qu'est-ce qui se passe à droite. Est-ce que la dérivée est orientée comme il faut. Est-ce que la courbure est orientée vers le bas, vers le haut, ou est-ce qu'il n'y a pas de courbure? Donc c'est légèrement subjectif, hein, parce que le tracé n'est pas parfaitement droit, c'est pour ça qu'on a des observateurs qui le font, c'est difficile de faire par une machine. Ils jugent la tendance générale, est-ce que la courbe décroît ou est-ce qu'elle croît? Est-ce qu'il y a une oscillation? Est-ce qu'il y a un motif particulier comme un zigzag? Donc voilà des exemples hein, dans lesquels vous voyez la production des enfants. Ici, par exemple, il y a une courbe quadratique à gauche, et l'enfant a continué avec le bon point au départ, la bonne position, la bonne dérivée, la bonne courbure, elle va vers le haut, la bonne tendance, la courbe croît, et pas d'oscillation, pas de motif particulier. Ici, vous avez de différents types d'erreurs. Par exemple, ici, la dérivée elle-même est incorrecte. Vous voyez, l'enfant n'a pas continué dans la bonne direction. Donc la question, c'est qu'est-ce que les enfants connaissent de ces propriétés mathématiques. Nous les appelons continuité, dérivation, courbure. Est-ce qu'ils ont une intuition, sans connaître ces mots évidemment, des propriétés mathématiques correspondantes? Alors voilà, jolie figure qui a été faite par Théo Morfois au laboratoire. Vous voyez toutes les trajectoires des enfants. On voit déjà qu'ils respectent pas mal, pour beaucoup d'entre eux, hein, on voit bien sûr des déviations, mais on voit beaucoup de respect de la courbure, par exemple. Vous voyez ici, la courbe monte, mais elle ne monte pas juste tout droit à partir de la dérivée locale de cette courbe, elle continue encore plus haut avec une courbure, pour beaucoup d'enfants. On a des enfants de 5 ans, qui sont en grande section de matériel, les enfants de 6 ans qui sont entrés au CP. Alors, le tableau ici vous montre le respect ou non des différentes propriétés pour différents types de courbes simples, les droites et les quadratiques et les exponentielles ici. Donc, très rapidement, bon, si le tableau est vert, ça veut dire que l'enfant respecte parfaitement les propriétés. Donc, par exemple, pour la courbe qui n'est pas une courbe, qui est une ligne droite horizontale, l'enfant n'a aucun problème, je continue ma ligne droite horizontale. En fait, toutes les lignes droites sont bien prolongées, c'est le défaut, quelque part, pour les enfants. Mais vous voyez que le tableau reste à peu près vert pour toutes les fonctions quadratiques et même exponentielles ici. Si on regarde un à un ses propriétés, la position, la dérivée et la courbure sont largement respectées par les enfants avec des progrès de 5 ans à 6 ans et cette colonne ici qui commence à être très largement verte qui indique que largement ils respectent toutes ces propriétés. Ce qui est plus difficile pour eux, c'est parfois la tendance globale et notamment pour les fonctions exponentielles ici. Une exponentielle décroissante, c'est compliqué parce qu'il y a une notion d'asymptote. Et on ne leur explique pas hein, cette notion d'asymptote, et c'est quelque chose qui, en mathématiques, vient assez tardivement. Elle n'est pas du tout indiquée ici, parce qu'il n'y a pas d'axe qui soit indiqué sur cette courbe, il y a juste la nécessité de prolonger la courbe. Donc ce n'est pas du tout déraisonnable de continuer par une sorte de cercle, par exemple, ou une ellipse, et c'est ce que font beaucoup d'enfants. Ça explique ce point rouge ici. Mais sinon, là, le respect des propriétés est assez bon, et en particulier, là, sur ce graphe, vous voyez le respect de la courbure. Les enfants comprennent la courbure. Voilà. Ils ne mettent pas de dessin courbe lorsque la partie gauche est une droite, mais ils commencent à faire une courbure, et dans le bon sens, lorsque la partie droite, la gauche de la courbe a une certaine courbure, qu'il s'agisse de quadratique ou d'exponentielle. Et ils le font de plus en plus avec l'âge, mais c'est déjà présent en grande section de maternelle. Donc le dessin d'enfant traduit dans une certaine mesure la compréhension intuitive de propriétés géométriques des courbes. Même chose pour les zigzags et les sinusoïdes. Vous voyez qu'ici, le tableau est largement vert. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La colonne rouge, c'est le respect de toutes les propriétés. Alors, c'est rare que toutes les propriétés soient respectées, mais le niveau du hasard serait quelque chose comme 1 sur 2 à la puissance 5, puisqu'il y a 5 propriétés ici. Donc, c'est quand même très faible et ils sont bien meilleurs que le hasard. Vous voyez qu'ils respectent à peu près toutes les propriétés. La principale difficulté qu'on a, c'est le fait que les zigzags et les sinusoïdes sont confondus. C'est assez intéressant. L'enfant voit une courbe, mais il a tendance à faire un zigzag avec des droites. Voilà. Il est vrai que dans les dessins, l'an dernier, je vous avais présenté l'histoire du dessin, y compris à la préhistoire. Très souvent, on voit approximer par des zigzags ce qui sont des courbes beaucoup plus continues, comme une rivière, par exemple. Donc, il y a quelque chose de spontané, de segmenté, et d'avoir une sorte de grammaire des graphiques fondée sur des segments de droite plutôt que sur des courbes, quand les deux sont possibles. Mais néanmoins, vous voyez que par exemple ici, les enfants respectent la période de l'oscillation. Donc quand on leur a demandé des sinusoïdes d'amplitude faible, ils ont produit des sinusoïdes avec une période... C'est pas l'amplitude, pardon, c'est la période ici qui est variée. Vous voyez que la période que produit l'enfant est adaptée dans une grande mesure à la période de la fonction qui est présentée à gauche. Autrement dit, il quantifie assez finement les propriétés de ce qu'on leur demande. Ici, vous avez une autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est un début de compositionnalité. Il faudrait faire d'autres expériences, hein. Mais je vous ai montré donc des cas où on avait une sinusoïde dont l'amplitude change. Ça, c'est deux propriétés en même temps, quelque part, qui sont combinées. Et puis, il faut comprendre que c'est l'amplitude qui change, mais pas la fréquence. Et dans d'autres fonctions, on avait la fréquence qui change, mais pas l'amplitude. Et vous voyez que les enfants sont capables, dans une grande mesure, de suivre ça avec leurs mains. Ils vont tracer correctement une courbe dont la fréquence, par exemple, ou dont l'amplitude, ici, va changer de façon appropriée avec l'axe des X. Bon, c'était l'exemple que je vous ai montré au départ, hein, la sinusoïde décroît, où la sinusoïde croît, où le zigzag décroît, le zigzag croît de façon appropriée. Donc, il y a un début là, de composition de fonctions, la fonction linéaire pour la croissance composée avec l'oscillation. Alors, quand on a soumis cet article, on était conscient qu'il y avait une difficulté, et ça nous est revenu de la part des Riferi, hein, est-ce que ce n'est pas simplement quelque chose de moteur ? Je trace la partie gauche de la courbe, je suis entraîné d'un point de vue moteur, j'ai des oscillations dans le système moteur, peut-être la courbure fait partie aussi de ce qui figure dans mon système moteur. Est-ce que c'est pas simplement ça? Une connaissance tellement implicite, elle est là quand même, hein, forcément, mais elle est peut-être cachée de façon très implicite dans un système périphérique comme le système moteur. Alors pour répondre à cette question, on a une idée très simple, c'est de faire une tâche de choix multiple. Donc il n'y a plus du tout l'aspect moteur de dessiner sur le papier, mais il y a simplement le choix entre 6 possibilités dont l'une est la bonne et les autres sont des déviants qui ne correspondent pas à la bonne courbe. Donc l'exemple ici très simple, hein, si la partie gauche c'est un segment de droite, la bonne réponse c'est la droite qui continue et on va tester si les élèves sont sensibles à la position de départ, donc à une discontinuité, à un changement dans la dérivée, à un changement dans la tendance générale, à l'ajout d'une courbure et à la non-périodicité des courbes. Bon, alors c'est un peu trivial, hein, mais les enfants choisissent très significativement, et au même âge, c'est à nouveau les 5 ans et les 6 ans ici, hein, choisissent beaucoup la réponse tout droite. Et en fait, c'est le cas pour pratiquement toutes les courbes qu'on a testées. On a retesté les mêmes courbes. Vous voyez que sans cette composante de dessin, les enfants comprennent quel est le bon choix. Ils comprennent ce qu'un autre enfant aurait dû dessiner. Voilà. Alors pour la courbure, par exemple, ils choisissent... On a toujours mis la bonne réponse à gauche, évidemment, sur l'écran des enfants, elle était mélangée, hein, mais ils trouvent que c'est effectivement la courbe qui est plus appropriée lorsque la partie gauche est courbe, ici, y compris les exponentielles. C'est pas parfait, mais ils choisissent beaucoup moins la droite quand la courbe à gauche a effectivement une courbure significative que quand elle est droite. Voyez. Donc ils sont capables d'adapter leur réponse à la courbe de gauche. Même chose ici pour les sinusoïdes, c'est beaucoup moins bon. Hein, pour les sinusoïdes, c'est plus difficile. Une des difficultés, comme je l'ai dit, hein, c'est que c'est difficile de ne pas confondre les sinusoïdes et les zigzags. Donc quand on voit ce qu'on appelle motif ici, c'est le passage d'une sinusoïde à un zigzag. Mais je pense que vous serez d'accord que c'est très difficile à voir, ne fût-ce que ça. Il y a un aspect perceptif dans cette tâche qui rend la chose difficile. Mais si on exclut donc ces confusions entre sinusoïdes et zigzags, les enfants comprennent que l'amplitude ne doit pas changer brutalement, que les variations d'amplitude ne doivent pas apparaître quand il n'y en a pas à gauche, que les variations de fréquence ne doivent pas apparaître quand il n'y en a pas à gauche. Et ça a l'air très bruité, il n'y a pas énormément de succès à gauche, mais néanmoins, il y a plus de choix de la bonne fonction, par exemple une fonction avec une amplitude croissante, une fréquence constante, est choisie plus fréquemment lorsque c'est la bonne réponse que lorsque ça n'est pas la bonne réponse, ici. Et inversement, donc ici, vous avez, pas inversement, lorsque c'est la fréquence qui varie, ce choix de la fréquence qui varie est fait plus souvent, même s'il n'est pas fait très souvent, que lorsque la fréquence ne varie pas. D'accord. Donc, les élèves commencent à avoir un début d'intuition de ce qu'est une courbe et de ses propriétés essentielles, comme l'oscillation, la courbure, le fait d'aller tout droit, etc. Voilà. Et je vous avais dit qu'on avait aussi, je reviens à l'expérience 1, d'autres formes de courbes. On a des escaliers qui descendent, des escaliers qui montent, des escaliers qui changent d'amplitude, des spirales, des cercles. Les enfants comprennent tout ça. Voyez. Ils sont capables de se composer une sorte de grammaire des graphiques. Et cette grammaire des graphiques, la diapositive suivante vous rappelle que je vous l'avais déjà montré dans le cours de l'année précédente, même des tout petits enfants de maternelle sont capables de comprendre comment se comporte une trajectoire dans l'espace spatial. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai présenté ce test que je vous soumets ici, où un enfant doit deviner où va se cacher un poisson dans une mare. Donc c'est la manière dont on lui présente ce test. Il y a 8 mares possibles. Le poisson va se cacher dans différentes mares. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Oups, j'ai pas réussi à l'arrêter, désolé. J'aurais voulu l'arrêter au 4 ou au 5 parce que c'est ce qu'on fait avec les enfants. On arrête la vidéo et on leur demande où va aller le poisson. Et ils sont absolument capables de vous dire ce qui va se passer ensuite avec très très peu d'évidence. Donc c'est une sorte d'inférence ultra rapide, un petit peu comme voir la partie gauche de la courbe et dire la suite. Hein. Les enfants comprennent, extrapolent, sont capables d'avoir une sorte de grammaire des graphiques. Et c'est un rappel du cours de l'année précédente, hein, mais nous avions montré qu'on a besoin d'une sorte de langage graphique complexe avec une sorte de combinatoire de fonctions élémentaires comme les translations, les symétries et les rotations autour de cet octogone qu'on a utilisé ici pour disposer les différents points. Donc par exemple, le programme pour le zigzag que vous avez vu, c'est une sorte de programme qui dit « répète 4 fois » des répétitions 2 fois d'une symétrie autour d'un axe donné. Ici, c'est l'axe vertical. Dans ce que vous avez vu, c'était un axe oblique. Et les enfants ont déjà cette sorte de grammaire tout de suite. Ça a l'air de rien du tout. Hein, ça nous paraît évident. Ça n'est pas du tout évident pour des animaux. On va le revoir dans un autre contexte. C'est quelque chose qui fait partie du bagage, de sorte de grammaire visuelle, visuo-spatiale de l'espèce humaine que les enfants amènent à cette tâche. Alors, ces travaux ont été prolongés par d'autres collègues, et notamment par Joshua Tenenbaum et ses collègues ici, avec Mills et Cheyette, qui ont été beaucoup, beaucoup plus loin. Vous voyez ici un très vaste ensemble de données dans lequel ils ont essayé plein de séquences différentes, avec un test qui est très ludique, qui est amusant, qui pourrait être utilisé en classe, hein, dans lequel on montre 3 points, et on vous dit « trouve le suivant ». Alors vous cliquez sur l'écran avec votre doigt ou avec votre souris et puis on vous dit non, le point il est là. Vous cliquez à nouveau, ah le point il est là, ah etc. etc. Et vous faites comme ça toute une série de points, une vingtaine de points et les points peuvent obéir à des régularités toutes différentes les unes des autres. Ici, pour bien comprendre ces graphiques, il faut se dire que ce sont les clics des personnes en fonction du numéro du clic, donc de 1 à 20 et la couleur donc représente le temps et les clics successifs de la personne. Donc c'est très facile de comprendre, par exemple, que lorsque les points font une ligne droite, eh bien très très vite, vous voyez, tous les points, toutes les réponses des sujets sont alignées correctement sur la droite. Pour d'autres cas, c'est un petit peu plus compliqué, mais par exemple, vous avez ici une magnifique fonction quadratique, Bon, ben, les sujets adultes ici sont tout à fait capables de faire une fonction quadratique. Et vous voyez toutes les variantes extraordinaires qui ont été testées ici. Il y a des variantes continues, dans lesquelles ce qui compte, c'est vraiment des paramètres quantitatifs continus, comme la pente, la courbure. Et puis il y a d'autres cas où c'est des paramètres discrets, ou une combinaison de paramètres discrets et continus. Je suis en train de relire « Récolte et semailles » d'Alexandre Grothendieck, qui est un livre extrêmement intéressant, où c'est un génial mathématicien, donne son intuition de ce que sont profondément les mathématiques. Et il dit « Les mathématiques, c'est le nombre, la grandeur et l'espace. Mais le sens de l'espace, la géométrie, c'est le rassemblement en fait, de la grandeur continue et du nombre discret. » C'est exactement ce qu'on voit ici. Pour être capable de comprendre ce qui se passe chez ces sujets ici, il faut vraiment penser que dans leur esprit sont rassemblées des notions de grandeur continue et des notions discrètes, des programmes discrets qui sont capables de suivre par exemple un carré ou un escalier avec des pas successifs. Donc ça, c'est chez l'adulte. Et récemment, les mêmes auteurs, donc ce premier auteur Mills ici, ont publié un premier article qui n'est pas encore avec une review, hein, mais qui est paru dans une conférence et qui fait le même travail non seulement chez l'adulte, mais aussi chez les enfants de 4 à 6 ans et chez deux singes macaques. La tâche est assez simple à nouveau, donc vous voyez trois points. Et à vous de jouer, vous devez cliquer sur le quatrième, le cinquième, etc. Et à chaque fois, on va vous donner du feedback, on va vous dire non, c'était là, etc. D'accord ? Donc une tâche d'extrapolation. Et vous voyez les différents patterns, qui ont été, les motifs ici qui ont été utilisés dans cette tâche. Donc ça peut être par exemple d'osciller entre un point central et un point périphérique, de créer une spirale carrée. J'aime bien celui-ci parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans notre test à nous, une sorte d'oscillation, de zigzag, avec une amplitude qui change. Pour tous ces motifs, on va voir ce qu'on sera capable de faire les enfants et les singes macaques. Donc les personnes se contentent de cliquer sur le point suivant. Ah oui, les singes ont été entraînés pendant 9 mois, d'accord ? Alors que les enfants, on leur montre ça pour la première fois dans leur classe en maternelle. Alors voilà les résultats pour quelques séquences. Toujours la même idée, hein, donc quand c'est violet, c'est le début. Et puis plus on va vers les couleurs chaudes, orange ici, c'est la fin de la séquence que produisent les personnes. Donc on peut regarder un exemple simple, bon, à la droite par exemple, donc vous avez les trois premiers points ici, et dès le quatrième, les adultes et les enfants et aussi les singes ne sont pas mauvais, sont à peu près autour du bon endroit, et plus ça avance, plus ils suivent finement cette droite ici, avec une certaine imprécision. Avec les singes font à peu près ce qu'il faut, leur réponse se déplace vers la bonne position. Maintenant, vous regardez les autres conditions. Regardez le triangle, par exemple. Ça, c'est quand même le plus simple. On va osciller entre trois positions. Extrêmement rapidement, on peut regarder les premiers points, c'est intéressant. 1, 2, 3. Les personnes répondent 4 ici, comme le zigzag. On leur dit non, c'était là. Très, très vite, ils corrigent. Et tous les points jaunes ici sont au bon endroit sur le triangle. Ça, c'est les adultes. Les enfants font à peu près la même chose et convergent. Pour une large mesure, et quelques erreurs ici, les singes font n'importe quoi, ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit, alors que c'est un triangle, hein, et ils se contentent de cliquer en un point donné ou de cliquer partout sur l'écran. Même chose pour des oscillations ici, alors c'est intéressant, hein, on a l'impression que le singe répond à peu près au bon endroit ici. Mais on va voir une chose très simple, c'est que les singes, en fait, se contentent d'aller tout droit. Voilà, se contentent de suivre la dérivée. Et les enfants ne font pas ça, les adultes ne font pas ça non plus. Donc le taux de succès global est de 92% pour les adultes, 67% pour les enfants et 32% pour les singes. Ça donne une impression que les différences sont quantitatives. Et en réalité, elles sont quantitatives pour les enfants, mais elles sont vraiment très différentes pour les singes. Donc pour les enfants, si vous regardez ces cours, par exemple pour le triangle ici, les adultes convergent très très vite vers la bonne réponse. Les enfants convergent aussi vers la bonne réponse avec un peu plus de temps. En fait, ce qui compte, c'est le nombre d'observations qui est nécessaire pour converger. Et les singes, eux, restent vraiment très mauvais ici. Vous avez plusieurs cas de ce type, par exemple l'hexagone ici, où, voilà, ce qui nous intéresse peut-être le plus, ici, une sorte de fonction oscillante dont l'amplitude décroît, et les enfants comprennent ces différents aspects. Ils mettent simplement pas mal de temps à converger vers cette bonne représentation, alors que les adultes vont beaucoup plus vite. D'accord ? Maintenant, les comportements des adultes et des enfants sont étroitement corrélés entre eux. C'est une des statistiques dans l'article. Le comportement des singes n'est pas du tout corrélé ni avec celui des adultes, ni avec celui des enfants. Et une comparaison de modèles montre que ce n'est pas du tout le même modèle qui explique le comportement des enfants et des singes. Les enfants comprennent la grammaire des graphiques. Ils ont besoin d'une sorte de langage de la pensée. On a besoin plutôt d'un langage de la pensée pour expliquer leur comportement. Ils combinent correctement les primitives. Ils comprennent qu'il y a des oscillations, par exemple, avec une amplitude donnée, trois points suivis de trois autres points, etc. L'une de ces courbes, par exemple, c'est le suivi d'un carré qui n'est pas trop mauvais. Bref, ils ne comprennent pas tout, hein, mais on a besoin, pour expliquer leur comportement, d'une sorte de grammaire. Ça n'est absolument pas le cas pour les singes ici. Donc nous, êtres humains, nous possédons tous une sorte de grammaire graphique dès le départ qui nous permet de comprendre beaucoup des propriétés mathématiques des courbes. Alors je trouve qu'il y a une piste intéressante pour la pédagogie ici. Jouer avec ce type de motif, est-ce que ça ne serait pas une manière d'enseigner déjà à faire attention aux propriétés des courbes et des programmes mentaux? C'est une première piste qui serait intéressante. En tout cas, c'est un jeu pour les enfants. Hein. Ça n'est pas un test, c'est vraiment un jeu. Et c'est intéressant de voir si on arrive à deviner la suite ou pas. Et je voulais faire le parallèle avec le cours de l'an dernier. Je vous avais montré des choses comme celle-ci, n'est-ce pas, où les dessins des enfants peuvent nous paraître extrêmement schématiques, drôles, mauvais quelque part, n'est-ce pas. Ils sont pas justes, ces dessins d'enfants. Mais ce que j'avais essayé de vous dire dans le cours de l'an dernier, c'est que derrière ce côté faux du dessin d'enfant, il y a une énorme capacité d'abstraction. Ça n'est pas des choses qui sont inappropriées quelque part. Ce sont au contraire des dessins qui vont au cœur de la structure abstraite de ce qu'ils cherchent à représenter. Et donc le canard ici, certes, il ne ressemble pas du tout à ça dans la réalité. Voilà le dessin de l'enfant. Mais il a quelque part les points essentiels de la composition d'un corps de canard, avec aussi une extrapolation vers le corps, plutôt la tête d'un humain ici. L'idée qui était ressortie, notamment de Goodenough déjà en 1928, hein, les enfants représentent l'invisible comme s'il était visible, les enfants vont au cœur de l'abstraction des choses. Je crois qu'on a encore sous-estimé cela, parce qu'on montre que même pour des fonctions abstraites, qui ne représentent rien, des fonctions mathématiques, eh bien ils sont capables de suivre un programme mathématique. Donc utilisons cette abstraction dans notre système scolaire, si on peut, c'est un point de départ utile pour les graphiques. Alors je passe à mon deuxième point, qui est l'enseignement du sens, et notamment du sens statistique des graphiques. Parce qu'on veut arriver à ça, non seulement à une compréhension de la forme graphique, je crois qu'on a déjà des points d'appui, mais une compréhension de ce que signifie un graphique. Alors il y a énormément de choses à apprendre dans ce domaine, mais je crois qu'il y a un tournant clé. Un petit peu comme dans l'apprentissage de l'alphabet, il y a un tournant clé qui est le moment où on comprend qu'il y a une correspondance entre les graphèmes et les phonèmes. Vous savez que c'est le cœur de l'apprentissage de l'alphabet, d'apprendre à lire, comprendre que chaque lettre ou groupe de lettres, chaque graphème correspond à un phonème. Et bien ici, il y a quelque chose de similaire, il y a une vraie invention, il y a un avant et un après dans les graphiques, c'est la compréhension, peut-être avec Descartes, que un point de données peut représenter plusieurs quantités, deux nombres en X et en Y, parfois plus avec la couleur, la forme, etc. Et donc, une collection de points peut représenter une tendance et un graphe peut illustrer la variabilité et la reproductibilité des données, peut montrer le bruit dans les données. Donc il y a énormément d'informations dans le graphe à partir du moment où on a compris ce que représente un point de données, ce qui est représenté en X et ce qui est représenté en Y. Alors, ça veut dire, quelque part, que l'éducation graphique devrait inclure une éducation partielle aux statistiques. Est-ce que je peux croire en ces données, à quel point elles sont reproductibles, quel est le niveau de bruit dans les données, etc., les distributions. Et puis ça veut dire aussi qu'on est capable de se faire tromper par des graphiques. Et je voudrais vous montrer à la fois ce qui est le cœur de l'éducation mathématique, et puis comment il faut expliquer aux enfants à ne pas trop se tromper, et nous-mêmes. Hein, ça reste des difficultés qui existent chez l'adulte. Alors, dans cet article de Kearns et Wilner, ils attirent l'attention sur à la fois une propriété utile de l'éducation graphique, mais aussi sur une erreur fréquente. Ce qui est utile, c'est cette manière d'enseigner les graphiques, qui est tout à fait compatible avec la méthode qu'on appelle de Singapour, qui en fait, pour cet aspect particulier, vient de Jérôme Brunner, c'est-à-dire passer du concret à l'imagé et ensuite à l'abstrait. Vous voyez qu'on introduit pour les enfants une notion de statistique en leur faisant lancer des dés ou simplement compter des propriétés. Mais ici, on va compter combien de fois est sorti le 2, combien de fois est sorti le 3, combien de fois est sorti le 4, combien de fois est sorti le 5. Et au départ, on le fait avec des objets réels et on peut simplement empiler les dés qui ont sorti 2, les dés qui ont sorti 3, etc. Et on peut les représenter avec des couleurs différentes. Dans la partie imagée, on va représenter ça sur le papier. Et déjà, on s'abstrait des objets matériels qui ont conduit à la statistique. Mais on est encore sur quelque chose d'extrêmement proche. Et puis ensuite, dans une troisième étape, on va passer à l'abstraction, on va présenter un graphique plus abstrait dans lequel on a directement les noms des objets et les nombres correspondants. Donc, c'est une idée pédagogique qui est intéressante. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre absolument, commencer par les aspects concrets, commencer par compter, etc., comprendre les axes, mais les auteurs attirent l'attention sur une difficulté. Je vais venir dans une seconde. Je termine juste pour dire donc, que dans la méthode de Singapour, vous avez cette idée générale qui commence à être adoptée en France dans les programmes, notamment manipuler, représenter, abstraire. C'est souvent mal traduit. On dit parfois en français manipuler, verbaliser, abstraire. Mais le bon terme, c'est manipuler, représenter, abstraire. C'est-à-dire commencer à avoir des représentations graphiques et ensuite pouvoir passer à l'abstraction et notamment au symbole des mathématiques. Alors tout ça est bel et bon, mais Kearns et Wilner attirent l'attention sur une difficulté. Et la difficulté est la suivante. Lorsque vous présentez un graphe en barre, comme ça, eh bien, il faut comprendre qu'il peut y avoir deux sens assez différents les uns des autres. Un sens dans lequel on compte, c'est celui qui est en bas. Ici, je compte le nombre de points et j'arrive à 15 parce qu'il y a 15 mesures. Ça pourrait être représenté sous ces différentes manières. Mais aussi, parfois, ça peut être la moyenne, la tendance centrale d'une distribution. La moyenne de la hauteur de je sais pas quoi et de 15. Et les données seraient distribuées comme ça. Et on passe sans s'en rendre compte, nous les adultes, on est habitués à cette idée, on passe sans s'en rendre compte d'une représentation à l'autre. Mais en réalité, celle de comptage est plus fréquente, et notamment dans les textes élémentaires, elle est beaucoup plus fréquente, et les auteurs se sont amusés à compter, même dans les textes plus avancés ici de psychologie, il n'y a encore que 40% de représentation de la moyenne, et donc le complémentaire, 60% de représentation par comptage ici. D'accord. Donc, il y a quelque chose de très différent. Qu'est-ce qui est différent? Eh bien, ce qui est différent, c'est que les données ne sont pas réparties du tout de la même manière. Ici, les données sont autour de la moyenne. Ici, les données sont des nombres de points qui sont en dessous de la moyenne quelque part et qui vont jusqu'à cette valeur plutôt qui est indiquée. C'est pas la moyenne, c'est le compte. D'accord. Il faut vraiment avoir cette distinction très forte en tête. Est-ce que je représente un nombre d'items ou est-ce que je représente une valeur quantitative qui peut résulter d'une moyenne de plusieurs données? Alors, les auteurs montrent que même chez des adultes, hein, on continue de se tromper. Donc, ils demandent à des adultes qui présentent ce type de graphique, dans lequel, bon, c'est de la psychologie, il y a le pourcentage de réussite pour des tests qui ont été faits le matin ou l'après-midi chez des jeunes adultes ou chez des adultes plus âgés. D'accord ? C'est des données imaginaires. Mais ils demandent aux auteurs de représenter, ils demandent aux participants plutôt de représenter où sont les données, quelles sont les données. Et les participants sont nombreux à représenter les données comme ceci, hein, autour de la moyenne. Mais il y a 20% des étudiants de psychologie adultes qui se trompent et qui représentent les données comme ceci, comme s'il s'agissait d'un comptage et pas d'une moyenne, et que les données sont toutes à l'intérieur de la barre. Et c'est une illusion fréquente de ne pas comprendre ça. Ça a été montré également par Brian Scholl, qui a fait une psychophysique assez remarquable de ça. Tous, ici, dans cette salle, nous avons ce biais non conscient de dire le point ici, il a plus de chances de faire partie de la distribution des données qui ont conduit à cette barre que ce point-ci. D'accord. Et c'est pas juste ce qui est en dessous de la courbe ou ce qui est dans la courbe, et enfin plutôt ce qui est en dessous de la courbe. Et on a tendance à l'inclure dans les données. C'est vraiment cette notion d'inclusion à l'intérieur de la barre. On a l'impression que les données sont à l'intérieur de la barre. D'accord. On a cette illusion. On a du mal à rejeter les points de données simplement en fonction de leur distance à la moyenne, en fonction de leur incertitude. On se trompe ici sur ce sujet. Donc il y a un premier point d'alerte. Est-ce que je comprends bien quelle est la nature des données qui sont affichées sur ce graphique? Est-ce que c'est un comptage? Est-ce que c'est une moyenne? D'où viennent ces données? Ça conduit à une notion vraiment très importante. Les élèves doivent apprendre rapidement à comprendre la notion d'incertitude, mais pas seulement les élèves, les adultes également. Et c'est l'objet de cet article ici, qui est intéressant. C'est une grande revue du domaine, dans lequel les auteurs discutent comment on peut faire pour mieux faire comprendre la notion de variabilité, l'incertitude. Alors, il montre qu'il y a beaucoup de formes graphiques. Celle qui est la plus classique, c'est sans doute celle qui est en haut. Un point de donnée, mais avec sa barre d'erreur. Je vais y revenir dans un instant. Mais vous avez aussi ces différentes formes. Il est devenu très facile maggintenant, grâce à des logiciels comme ggplot, par exemple, vous pouvez passer très facilement d'une forme graphique à une autre. Et par exemple, le violon, souvent avec les points de données à l'intérieur, est aussi une bonne manière de représenter les données. Vous pouvez voir la densité des données, etc., etc. Il donne aussi d'autres exemples. Par exemple, si vous connaissez le site de l'EEF, Education Endowment Fund, j'ai choisi d'en parler parce que c'est extrêmement intéressant sur le plan de l'éducation, tout simplement, sans parler des graphiques. C'est un site qui va vous donner, pour toutes les grandes catégories d'interventions pédagogiques, quel est le coût de cette intervention, quelle est la qualité de l'évidence en faveur d'un effet ou pas, et quelle est la taille de l'effet en mois gagné pour les enfants. Donc, par exemple, pas la peine d'y revenir, mais quand vous apprenez à lire, un apprentissage par une méthode phonique, ça a un gros effet, vous pouvez gagner 4 mois en moyenne, ça ne coûte pas cher et la force de l'évidence est remarquable. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ils indiquent par des cadenas ici à quel point cette conclusion est verrouillée, si on peut dire, à quel point cette conclusion est forte, solide. Il n'y a plus de variabilité sur cette conclusion. Il y a d'autres situations dans lesquelles on a un petit peu plus de variété. Et vous pouvez voir par exemple ici le fait de redoubler d'après l'analyse de l'EEF, qui est une méta-analyse, ça coûte très cher, parce qu'il faut rajouter un an de scolarité, ça conduit plutôt à des résultats négatifs. C'est pas bon pour beaucoup d'élèves. Peut-être qu'il y a quelques élèves chez qui ce serait bien, mais en moyenne, c'est très mauvais. Et l'évidence est quand même assez forte en cette faveur. Donc, représentation de la variabilité. Alors, vous avez plusieurs exemples dans cet article qui sont intéressants et qui mériteraient, je pense, d'être utilisés dans notre système scolaire. Est-ce que c'est déjà au primaire ou est-ce que c'est plutôt au secondaire? Mais il faut absolument faire comprendre que lorsqu'on a des données, par exemple, ici, c'est le produit national brut pour la Banque d'Angleterre, en fonction des années. Et vous avez la partie de données qui est connue, avec déjà une variabilité, parce qu'on ne la connaît pas parfaitement, il peut y avoir des incertitudes sur cette connaissance, et puis la projection de ces données sur la droite, et la notion de variabilité qui est représentée ici par des couleurs différentes. Très très important de ne pas juste produire une courbe brute, de se rendre compte que cette courbe, elle peut avoir en fait une incertitude considérable en fonction des années ici. Et tout ça est expliqué dans la légende. La légende est extrêmement importante aussi à ce sujet. Voilà une autre représentation ici, peut-être plus familière, c'est le changement de température globale en fonction des années. Et cette projection qui avait été faite il y a quelques années ici, elle est intéressante et elle est reprise dans cet article parce que vous avez une courbe qui elle-même a une certaine incertitude, en gris ici. C'est l'incertitude historique, en quelque sorte. Est-ce que nos mesures étaient correctes? Mais ensuite, les auteurs utilisent des couleurs différentes pour représenter différentes formes d'incertitude. La variabilité naturelle, la réponse du climat qui n'est pas parfaitement connue. On la modélise, mais on n'est pas certain que notre modèle soit correct. Et puis, l'incertitude sur les émissions elles-mêmes qui vont changer la trajectoire de réchauffement de la planète. Donc, les auteurs ici disent que ce graphique est extrêmement bien fait, ça devrait être un modèle parce qu'il sépare correctement les différentes sources de variabilité. On devrait enseigner ces choses-là à nos élèves. Sauf que ce n'est pas terminé. Parce que justement, il y a différentes sources de variabilité. Et un article assez intéressant, et tout récent, vous voyez, tout ça, c'est pas des choses, c'est des interrogations assez récentes en psychologie, 2023, montre qu'il y a une illusion. Et là encore, je parle plus de jeunes, je parle des adultes ici, et des adultes éduqués. Il y a une illusion sur la variabilité des données. Il y a deux sortes de variabilité et il faut arriver à les distinguer, mais les étudiants et nous-mêmes, nous ne les séparons pas suffisamment. Alors, de quoi s'agit-il? Bien souvent, dans les graphiques, vous avez des barres d'erreur comme ça. Vous avez la moyenne, puis vous avez une barre autour. La première chose, c'est est-ce que dans l'article, est expliqué convenablement à quoi correspond cette barre? Ce n'est pas toujours le cas. Et il y a vraiment deux possibilités. Ça peut représenter l'erreur standard, c'est-à-dire la dispersion des données réelles, ou ça peut représenter l'erreur standard de la moyenne. Je suis mal exprimé, ça c'est l'écart type en français. J'ai mal traduit. L'écart type en français versus l'erreur standard de la moyenne. Alors, est-ce que vous connaissez cette différence? Peut-être pas tous. La première, c'est la distribution des données. Ici, vous avez les données de départ, les points. Ils ont une grande distribution. D'accord. Pourquoi est-ce que la barre d'erreur ici est beaucoup plus petite? Parce que la barre d'erreur représente notre incertitude à nous sur la moyenne. Est-ce que, étant donné ces données, je peux avoir une bonne connaissance de la moyenne? Où est-ce qu'elle se trouve? C'est ça, la deuxième barre d'erreur, ici, c'est l'erreur standard de la moyenne. C'est une statistique inférentielle, c'est une incertitude sur l'inférence que je peux faire sur la précision avec laquelle j'ai estimé la moyenne. D'accord. Sur des choses très différentes. Si j'augmente le nombre de points, la première valeur, l'écart type des données ne change pas, j'ai simplement plus de points qui ont toujours la même distribution, mais par contre, mes barres d'erreur diminuent ici sur l'erreur standard de la moyenne parce que j'ai raffiné la précision de mon estimation, j'ai une précision beaucoup plus grande sur l'estimation de cette moyenne. Mon incertitude sur la position de la moyenne a diminué, mais les données, elles, ont toujours la même variabilité, c'est simplement parce que j'ai plus de mesures que je suis plus sûr de moi sur la moyenne, d'accord ? J'espère que j'explique ça à peu près comme il faut. Eh bien, les auteurs soulignent et montrent dans leur article, je ne rentrerai pas plus dans le détail que ça, mais que nous nous trompons. Et nous avons l'impression que lorsqu'on voit des petites barres d'erreur comme ça, eh bien, les données sont distribuées tout autour et assez proches de cette valeur moyenne, et nous ne nous rendons pas compte que c'est tout à fait possible que les données soient comme ça. Voilà. En fait, ici, vous voyez, les mêmes barres d'erreur, l'échelle a été changée, hein, les mêmes barres d'erreur et les données de départ. Les données peuvent être extrêmement étendues par rapport à la moyenne qui vous est présentée et à la barre d'erreur qui vous est présentée. Donc il faut absolument arriver à comprendre cette différence entre la distribution des données et l'incertitude inférentielle qu'on peut avoir sur la position de la moyenne, par exemple, de ces données. Donc nous nous trompons tous. Nous avons l'impression que les données ne sont pas distribuées de la même manière ici. Quelque part, c'est normal parce que pour avoir une bonne idée, il faut aller voir le nombre n qui est présenté ici. Et c'est parce que le n est beaucoup plus grand ici que ces barres d'erreur ont diminué, mais la distribution, elle a pu tout à fait rester la même. Alors la recommandation des auteurs, c'est extrêmement simple, c'est de représenter les deux. Et c'est très facile à faire maintenant avec ggplot, vous pouvez très facilement avoir à la fois les données et la moyenne et son erreur standard autour de la moyenne. C'est ça, d'après les auteurs, qu'il faudrait faire systématiquement pour donner un bon feeling, quelque part, des points. Et très facilement, si ce sont les mêmes points, c'est par exemple si ce sont les mêmes sujets qui ont été testés dans les deux cas ici, vous pouvez les relier par une barre, et à ce moment-là, vous voyez systématiquement est-ce que l'effet va dans le bon sens ou est-ce qu'il va dans le mauvais sens, par exemple. Donc, ici, ce sont des données imaginaires, hein, donc c'est pas la peine d'en déduire quoi que ce soit. Mais vous voyez qu'on peut, par des moyens graphiques, essayer de mitiger ces difficultés qu'on a à comprendre des concepts assez complexes d'erreurs standards de la moyenne versus d'écart type des données. Il faut produire des graphiques dans lesquels on comprend mieux quelle est la nature des données et quelle est la vraie variabilité dans les données. Alors, j'en profite pour vous montrer ce graphique que je trouve assez frappant. Je pense qu'il devrait être connu. C'est aussi, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Ici, les auteurs ont été cherchés à quelle probabilité on attribue à différents mots en anglais. Donc si je vous dis almost certainly, quelle est la probabilité associée? Ben, pour vous, c'est de l'ordre de 90 à 100% ici. Si je vous dis likely, alors c'est plutôt entre 60 et 90%. Et donc on devrait, je pense, connaître ce graphe, qui est par ailleurs assez beau, hein, et qui nous dit qu'on n'utilise pas les mots du tout au hasard, on a tous une certaine zone d'incertitude sur l'usage de ces mots, et il faut utiliser ces mots à bon escient. Si on veut traduire une certaine probabilité, il y a certains mots qui sont plus faciles à utiliser, ou plus qui communiqueront mieux à l'interlocuteur la variabilité que d'autres. Si je veux traduire que la probabilité est de 10%, je peux utiliser une expression comme « chances are slight » ou « highly unlikely ». Il faudrait refaire ce travail en français. Hein. Vous voyez que nous avons tous en tête dans notre lexique mental une certaine notion de variabilité. Elle n'est pas du tout distribuée n'importe comment, elle est assez précise. Certains mots sont plus précis que d'autres, vous voyez, ils sont étroits ou pas. Hein. Et nous devrions nous en servir pour communiquer mieux sur cette notion de variabilité. Alors, c'est le moment de dire, évidemment, que nous sommes tous vulnérables hein, à ces effets. D'ailleurs, je vous ai présenté des articles où ce sont des adultes qui tombent dans le panneau. C'est le moment de faire attention à tout cela parce que vous avez, au niveau international, une agressivité énorme dans les fausses nouvelles, dans les fausses informations. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait sorti ce texte du Conseil scientifique sur l'esprit critique. Nous devons développer un esprit critique, c'est urgent, parce que nous avons, par exemple, ici, le Doge, l'administration de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk, qui produit des graphiques et qui cherche volontairement à nous biaiser. Ici, vous avez un graphique qui est très mauvais, hein, parce qu'il est difficile à lire, il n'y a pas d'axe des Y. Ici, on comprend que c'est une distribution quand même, et là, c'est la distribution des salaires, et on vous sort un chiffre, l'employé moyen de l'administration américaine gagne $93,000, ce qui paraît élevé. Hein. Ben oui, mais c'est la moyenne, c'est pas le mode de la distribution. Donc, il faudrait aussi enseigner quelle est la différence entre la moyenne et le mode. Le mode, ce serait le pic de la distribution, qui est beaucoup plus bas. Vous avez une distribution d'âge qui vous donne l'impression que les employés sont plutôt âgés et qu'on pourrait bien les mettre à la retraite, n'est-ce pas ? Sauf que c'est juste une distribution normale des âges pour n'importe quelle administration ou n'importe quelle grosse société. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, j'ai trouvé un site que je trouvais intéressant qui s'appelle Dishonest Charts et qui vous aide à apprendre comment fonctionnent les graphiques. Je vais basculer dessus brièvement pour vous montrer, mais vous pourrez y aller, et je pense en particulier ceux qui cherchent à éduquer aux graphiques. Hein. Et ça commence par une explication assez précise et interactive sur comment fonctionnent les graphiques. Donc ça reprend un petit peu les deux premiers cours que j'ai donnés aujourd'hui. Hein. Quels sont les éléments graphiques, comment on peut les utiliser pour présenter des données, qu'est-ce que c'est qu'une échelle, et comment elle peut avoir des graduations plus ou moins variées. À chaque fois, on le fait de façon interactive. Je pense que pour les élèves, ce serait extrêmement intéressant. Comment les échelles peuvent varier séparément sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Et comment ça peut servir pour coder toutes sortes de graphiques. Et puis ensuite, vous avez, je vais passer un petit peu tout ça, des différents types de graphiques, hein, par exemple le scatterplot ici, les points de données. Et puis ça y est, vous arrivez à qu'est-ce qu'on peut faire pour vous tromper avec ça. Et là, vous avez toute une liste de manières de tromper les gens et comment y résister. Première manière, par exemple, je vous l'ai déjà expliqué, changer l'échelle. Ici, vous avez l'impression qu'il y a une croissance très faible de cette courbe. L'échelle n'est pas appropriée et si vous mettez une échelle appropriée, vous voyez la croissance. Vous avez le pouvoir du cherry picking, comme on dit en anglais, c'est-à-dire choisir les cerises, littéralement, c'est-à-dire choisir les points de données. Ici, c'est curieux, vous avez l'impression qu'on porte moins de lunettes quand on est jeune que quand on est âgé. Oui, mais sauf qu'il faut voir que c'est de 59 à 60 ans et on a choisi exprès le point de données où ça décroissait, alors qu'en réalité, bien entendu, on porte plus souvent des lunettes quand on est âgé que lorsqu'on est plus jeune. Tout est bien fait, comme ça, vous pouvez immédiatement interagir pour comprendre comment vous avez été manipulé. Ici, on a vraiment l'impression que la courbe augmente, mais elle est lissée. Et en fait, elle augmente pas de façon linéaire, elle augmente avec une sorte de marche particulière entre 45 et 50 ans. Ici, vous avez des données qui ont été mises en boîte, mises en carré. Et donc, ça, là aussi, c'est curieux. Hein, c'est des joueurs de basket et ils ont tendance à être plus nombreux avec une taille petite qu'avec une taille grande. Alors, c'est bizarre. Oui, ben évidemment, c'est parce que c'est sélectionné, les fameuses bins ont été choisies, hein. Et si je les fais bouger maintenant, je vois évidemment qu'il y a plus de joueurs de basketball avec des tailles élevées jusqu'à un certain point, évidemment. Donc tout ceci, si on présentait ça aux élèves, ça serait extrêmement intéressant, je pense, parce que ça permettrait de mieux comprendre comment on construit un graphique, ce qu'on leur demande d'ailleurs explicitement dans les programmes et dans Teams, concevoir un graphique, mais le concevoir d'une façon qui n'est pas biaisée. Et inversement, se rendre compte quand on se fait biaiser, si je puis dire. Alors, toujours dans la nature des biais, il faut vous faire comprendre que c'est vraiment universel. Hein. On n'arrivera pas à complètement éliminer les biais. Il faut qu'on en soit conscient, mais au niveau non conscient, il y a énormément d'influences de toutes sortes. Je vous citerai pas l'article parce que ça porte directement sur notre domaine. Il y a un article assez sympathique qui montre que à conclusion rigoureusement égale, rajouter une image de cerveau augmente considérablement la confiance des gens dans la conclusion. Donc ça, je l'utilise régulièrement, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai. Voilà. Donc rajouter une image de cerveau. Ici, c'était notre idée, c'est faire manipuler ce qu'on appelle les a priori, les priors ici, et puis aussi la présence d'une p-value. Vous voyez que ce qui a été fait, c'est de rajouter sur un graphe la présence d'une valeur de p qui dit c'est très significatif, là, 10-4, d'accord ? Et c'est le même graphe dans les deux cas. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on appelle l'a priori ? Ben, vous voyez que sur la courbe de droite, c'est les maladies cardiaques en fonction du nombre de cigarettes fumées par semaine. Alors, vous avez sûrement un a priori qui est que c'est pas bon de fumer. Par contre, ici, vous avez le fait d'aller surfer sur Internet, je pense que c'est en heure, c'est pas très clair, en fonction de la hauteur des personnes. Bon, a priori, il n'y a pas de raison d'avoir une relation. Alors, les auteurs regardent pour un grand nombre de sujets, hein, 623 chercheurs en biologie, hein, ils leur demandent, est-ce qu'il n'y a pas de relation dans le graphique, une relation faible ou une relation forte ? Et les résultats montrent que pour ce qui est de la manipulation de l'a priori, qui est ici en haut, les chercheurs expérimentés n'ont pas d'effet, mais les chercheurs qui ne sont pas très expérimentés ont un effet, ils sont influencés par l'a priori. Donc ils voient dans les données ce qu'ils cherchent à voir. C'est un danger qui nous guette tous. Et puis, encore plus intéressant, quand il y a une valeur de P ici, alors là, tout le monde se fait entraîner, tout le monde croit qu'il y a une relation plus forte quand il y a une valeur de P qui est présentée sur le graphique, hein, même si elle est juste. Hein. Donc ça nous aide quelque part, mais ça nous biaise aussi. Voilà encore un autre exemple. Ça, c'est facile à comprendre. Hein. Imaginez que vous évaluiez la performance d'une société et on vous présente soit le graphique de gauche, soit celui du milieu, soit celui de droite. Voilà. Bah, tout le monde tombe dans le panneau et les investisseurs pensent que la société qui est présentée à droite marche beaucoup mieux que les autres. Voilà. Ça n'est pas le cas, c'est exactement les mêmes données. Et la donnée recommandée, la présentation recommandée, c'est celle du milieu. Hein. Celle du milieu permet de représenter les données avec une croissance raisonnable. Mais ce qui manque évidemment sur ces graphiques, ici c'est l'axe des Y qui permettrait de voir quantitativement de quoi il s'agit. Mais si on ne fait pas attention à l'axe des Y, on peut se faire avoir par la pente tout simplement des données. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on enseigne à nos étudiants très spécifiquement, et vous voyez que ça va jusqu'à assez loin, hein, les étudiants sans doute d'université, scruter la légende, examiner l'échelle, examiner les proportions, et ne pas sauter aux conclusions, réfléchissez, ne vous laissez pas avoir par ce traitement inconscient, rapide, qui vous donne une impression souvent trop rapide sur les données. Il y a vraiment, j'aurais pu continuer, il y a beaucoup d'articles de ce type qui montrent des biais de toutes sortes, j'ai essayé de lister les principaux. Ce sont des biais de pente, des biais de mauvaise compréhension de la moyenne, des biais d'influence externe des a priori ou des probabilités. Voilà. Alors je voudrais terminer en regardant un petit peu qu'est-ce qui est fait actuellement dans le système scolaire, avec l'idée qu'on va essayer peut-être d'expérimenter sur ce sujet et de proposer une meilleure éducation au graphique. Alors on s'est penché uniquement pour l'instant sur les programmes du premier degré, hein. Qu'est-ce qui est fait en classe. Et vous savez qu'il y a des nouveaux programmes qui sont sortis, qui sont influencés par Singapour, par la méthode de Singapour, par les idées en tout cas, donc de passer progressivement en spirale du concret au représenté et à l'abstrait. Et donc on a un programme que moi je trouve assez bon, très honnêtement, en termes d'objectifs, ce qui est donné à chaque année. D'abord, on a des programmes qui sont spécifiques pour chaque année. Donc ils disent par exemple, dès le CP, collecter des données, présenter ces données sous forme d'un tableau ou d'un diagramme en barre, construire et compléter un tableau en double entrée, et on a des exemples. On a des exemples de ce type. Les élèves devraient savoir représenter les données de cette manière-là. Quel est ton fruit préféré ? Et vous avez les différents élèves qui sont présentés par des barres, inversement par des tableaux. Au CE1, produire un tableau ou un diagramme en barre pour présenter des données recueillies, lire et interpréter les données d'un diagramme en barre, lire et interpréter les données d'un tableau à double entrée. Et au CE2, ça augmente progressivement, mais on voit apparaître la notion de résolution de problème en utilisant les données d'un tableau à double entrée ou d'un diagramme en barre. Donc les objectifs, comment ça c'est clair, et les programmes, si vous les regardez, à chaque fois il y a des exemples qui sont pas mal, parce que ce sont des exemples qui sont parfois tirés directement de Teams, ou des problèmes très équivalents à Teams. Par exemple, ce problème-ci, ici, vous voyez, les 175 élèves de l'école Poséidon habitent dans 4 villes différentes, Alpha Ville, Beta Ville, Gamma Ville et Delta Ville, et vous voyez, en regardant le graphe, qu'on ne vous a pas mis la barre pour Delta Ville, et on vous demande de placer la barre pour Delta Ville, ce qui suppose de comprendre que le total fait 175, qu'il faut faire une soustraction, et que c'est en faisant la soustraction et en plaçant la barre correctement que vous allez réussir. Donc c'est résolution de problèmes fondées sur des graphiques. C'est pas mal. On est en CE1, au CM1, on retrouve la même chose, c'est très spiralaire, ça se répète beaucoup, mais on rajoute un ensemble de points. Donc avant, on avait des diagrammes en barre, et maintenant, on a des nuages de points. On rajoute aussi ou d'une courbe, Il faut être capable d'interpréter un diagramme avec des courbes. Et puis, dans les exemples, on voit des choses comme celle-là. Alors là, je la trouve un peu compliquée, hein, mais des graphiques dans lesquels il y a plusieurs barres. La couleur fait référence à une légende qui est en dessous du graphique ici. Ce n'est pas le graphique le plus simple qu'on puisse imaginer du tout, hein, mais les élèves doivent pouvoir répondre à des questions du genre en 2023, alors c'est les données de 2023, quels sont les mois pendant lesquels la hauteur des précipitations a été inférieure à 10 mm à Marseille ? Alors, à Marseille, il faut aller voir la courbe verte, et puis inférieure à 10 mm, il faut comprendre que les nombres font référence au millimètre, c'est marqué là, en vertical, ce que je regrette, on va être capable d'extraire les mois correspondants. C'est déjà des tâches assez difficiles, des tâches séquentielles, des tâches d'attention de la lecture des différents graphiques. Ça continue, hein, donc vous avez résolu des problèmes en plusieurs étapes. Celui-ci n'est pas spécialement génial, mais il faut faire attention au fait qu'on parle d'une classe particulière, CM1C, qui est ici. Bon, c'est pas marqué très clairement. Hein. Trouve le nombre de garçons. Ah oui, alors on comprend que ça, c'est le nombre total. Il faut être capable d'extrapoler, d'interpoler plutôt, parce que c'est 25, c'est pas marqué directement, mais ça doit être 25 ici, et donc de faire la soustraction, de comprendre qu'il reste 14 garçons, puisqu'il y a 11 filles. Bon, oui, c'est pas mal, l'objectif est donné, et l'objectif c'est très concret, c'est résoudre des problèmes de ce type, voilà. Les attendus sont beaucoup plus clairs, et ça je pense que c'est la clé pour un bon programme pédagogique. On sait ce que les élèves devraient savoir faire. Où est le problème? Le seul problème, je trouve, et il est quand même considérable, c'est que rien n'est dit sur la manière dont il faudrait procéder. Quelles sont les étapes cognitives par lesquelles il faudrait passer pour accomplir ces objectifs, pour atteindre ces objectifs? On a été voir aussi dans les manuels comment c'est fait actuellement. C'est un travail qui a été fait par Ciali Liu et par Lorenzo Ciccione au laboratoire, que je vous montre brièvement. Il y a un petit texte qui est disponible. Ils sont allés voir les manuels de CE2, CM1 et CM2 en grand détail pour regarder qu'est-ce qu'il y a dedans actuellement. Là, j'attire tout de suite votre attention sur le fait que ça a été fait avant le changement de programme. On espère tous qu'il y a maintenant des éditeurs qui retravaillent ces programmes et qui vont rentrer en beaucoup plus grand détail pour respecter le nouveau programme du primaire. Mais donc, ils ont fait un recensement systématique des graphiques dans plusieurs manuels scolaires, que voici. Vous avez les noms des différents manuels ici. Et ils sont allés voir, page par page, comment les graphiques étaient utilisés. Alors, le premier résultat qui est quand même frappant, hein, c'est à quel point ce domaine est sous-estimé dans les manuels. C'est vraiment considérablement sous-estimé. Je vous avais dit qu'il y avait à peu près 20%, pas à peu près, exactement 20% des problèmes de Teams qui portaient sur ce domaine. Eh bien, il y a de l'ordre de 3-4% au maximum de pages de ce type consacrées à ce sujet de la graphicacie dans les manuels scolaires. À mon sens, c'est beaucoup trop peu. Hein. Il y a certains manuels qui, une année donnée, par exemple, ici, ne présentent aucun problème de ce type. Donc ça n'est pas du tout conforme au nouveau programme, et il faut absolument que ça change avec les nouveaux programmes. Les différents types de graphiques ne sont pas encore systématiquement introduits dans tous les manuels. Donc vous avez là c'est en CM1, donc il y a des manuels qui n'introduisent pas les graphiques du tout, mais même, je sais pas, celui qui est consacré à la méthode de Singapour, là on n'a pas les diagrammes en XY avec les nuages de points qui sont utilisés par d'autres manuels. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus systématique dans ce domaine. Les nouveaux programmes doivent le permettre, ils sont assez précis là-dessus. Après, ce qui est plus gênant aussi, c'est qu'on a une syntaxe graphique qui n'est pas toujours rigoureuse. Donc on n'habitue pas les élèves à la rigueur de la syntaxe graphique dont je vous ai parlé depuis le départ. Vous pouvez regarder ce graphe, il n'est pas le plus mauvais de tout, hein. Il est pas mal, on a l'impression que tout va bien, il y a les années, le nombre d'habitants, une courbe, c'est à peu près expliqué. Mais il y a deux problèmes qu'on ne voit pas tout de suite. L'axe des X n'est pas linéaire. Ça, quand même, c'est pas acceptable, je trouve. Vous avez donc un axe qui est ordinal, alors que la variable est quantitative, c'est le nombre d'années, c'est les années qui s'écoulent. Mais elles ont été espacées de façon inappropriée. Et puis, deuxième problème, on vous donne des points de données qui ne sont pas du tout sur la courbe. En 2019, la population est d'environ 71 500 habitants, etc. Donc, c'est bizarre. Ici, c'est encore un peu plus bizarre. Vous avez des graphes, c'est à peine un graphe, c'est une espèce de tableau, il y a un mélange entre tableau et graphe ici, mais les cases en couleur représentent les données, et il n'y a pas d'axe des Y, c'est pas marqué, et en fait, vous comprenez en lisant le problème, qui est appelé énigme ici, que l'axe des Y, c'est pas du tout une case pour un enfant, ou une case pour un chocolat, c'est une case pour une quantité inconnue, et c'est à vous de le déterminer, on vous dit qu'ensemble, ils ont 60 chocolats. D'accord. C'est vraiment une drôle de chose. C'est pas du tout central dans les graphiques actuels. Celui de droite, à la rigueur, encore, il n'y a pas de case. C'est un diagramme en barre, si on veut. Enfin, c'est très trompeur pour les enfants. Et je vois pas trop l'intérêt pédagogique là, de cette situation. Vous avez beaucoup de manuels qui font bien, hein. Donc on a quand même été impressionné par la qualité de bons manuels. Il y en a qui ont vraiment une syntaxe graphique très rigoureuse. Mais ce qui est frappant à ce moment-là, c'est que c'est souvent une leçon isolée. Et je terminerai là-dessus. On n'a pas vu d'enseignement explicite des graphiques dans la plupart de ces manuels. La plupart des manuels se contentent d'une sorte de mise en situation avec une recherche collective et une application de quelques questions en autonomie des élèves. Donc, typiquement, ça veut dire regarder un graphique et puis essayer de comprendre, une sorte de pédagogie de la découverte. Et il n'y a pas cette notion qui est absolument essentielle dans l'enseignement explicite, l'enseignant qui démontre de façon précise comment je fais. Dans l'enseignement explicite, l'idée c'est je fais, puis ensuite nous faisons ensemble, puis ensuite tu fais. D'accord. Il doit y avoir ces trois étapes successives. Et la première étape a l'air très largement passée par beaucoup des manuels qui disent directement, observe le graphique, essaye d'en déduire des connaissances. Il n'y a pas de guidage très explicite par l'enseignant. En tout cas, ça n'est pas du tout obligé par le manuel. Ça n'est pas, l'enseignant n'est pas très encadré dans les activités qu'il doit proposer aux élèves. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez le manuel de la méthode de Singapour, ici, qui est beaucoup plus structuré, qui donne, vous voyez, des instructions très précises aux enseignants. Focaliser l'attention des élèves sur le tableau, faire leur lire le titre d'abord, puis les phylactères, puis expliquer ce que représente chaque case, etc. etc. Donc, une entrée guidée qui est plus conforme à ce qu'on appelle l'enseignement explicite. Mais l'enseignement explicite, c'est vraiment ça, c'est réfléchir très précisément à chaque étape de ce qui va être enseigné. Alors je termine en disant qu'on trouve parfois des graphes merveilleux. Celui-ci, moi, je trouve vraiment excellent. Voilà. Vous avez ici un graphe qui est bien étiqueté, tout est horizontal, tout est lisible, et vous avez un point de données qui est isolé. On comprend qu'il y a deux nombres qui correspondent à ces points de données. On comprend ce que ça veut dire parce que l'enfant en haut le dit, à 3 ans, je mesurais 90 cm. Voilà le genre de choses sur lesquelles on doit s'appuyer pour la pédagogie. Et on peut proposer quelques étapes pour mieux comprendre. D'abord, comprendre les échelles de mesure, hein, donc notion de ligne numérique, échelle linéaire et pas logarithmique, ce n'est pas intuitif pour les enfants. Interpolation, ordre de grandeur. Interpolation, j'en ai pas beaucoup parlé, mais par exemple ici sur ce graphe, vous pourriez demander et si tu avais 3 ans et demi, quand tu avais 3 ans et demi, tu mesurais quoi? Alors, c'est pas le point de données n'est pas là. Ah oui, mais 3 ans et demi, ça serait ici et du coup, ça ferait 95 cm. Je peux le sortir de ces données, vous voyez. Je peux interpoler. Au passage, je comprends la notion de demi, de fraction. Ces graphes sont vraiment des objets très utiles lorsqu'ils sont bien faits pour enseigner toutes sortes d'aspects à l'intersection de l'arithmétique et de la géométrie, du discret et du continu. Les unités de mesure, évidemment. Quelles unités sont utilisées? Les centimètres, les âges, etc. Ensuite, il y a la question de l'extraction des données individuelles. Hein. Chaque point possède des coordonnées. Je crois vraiment que c'est la clé du graphique. Hein. C'est ça, l'invention. La vraie invention, c'est un point peut représenter une collection de données, une base de données. Et donc l'extraction d'une valeur de x à partir de y, l'utilisation de la légende pour comprendre quelles données correspondent à quoi, l'extraction du minimum ou du maximum, ça c'est pour les points individuels qui sont une première étape. Et puis, je propose de procéder dans une seconde étape à la compréhension des tendances, c'est-à-dire le fait que quand il y a plusieurs points, la variable qui est en x peut varier avec la variable qui est en y ou vice-versa. Et donc ici, la taille varie en fonction de l'âge que les enfants peuvent comprendre et très rapidement, ils peuvent comprendre des fonctions plus élaborées qu'une simple droite. Ils peuvent comprendre une courbe, une fonction qui oscille, etc. Et puis, dans les programmes, il y a vraiment cette notion d'équivalence tableau graphique ou différentes sortes de graphiques, donc d'être capable de construire un graphique. Ça, j'ai trouvé peu de recherches là-dessus, hein, mais il faut que les enfants soient capables, à partir du tableau de données, de produire eux-mêmes leur propre graphique. Ça fait partie des programmes, je pense qu'on a raison de le dire, parce que quand on produit, on comprend, hein, mais il faut l'enseigner tout à fait explicitement. Voilà. Et puis, ce point que j'ai souligné aujourd'hui, hein, compréhension d'aspects élémentaires des statistiques, moyenne, dispersion des données, qualité des données, notion de barre d'erreur, tout ça va venir plus tard, ensuite au second degré, mais doit être à nouveau enseigné explicitement. Voilà, je vous laisse avec ce tableau qui est une proposition. On va essayer de travailler là-dessus au laboratoire pour proposer une sorte de pédagogie graphique avec un certain nombre des outils que je vous ai montrés et espérer que peut-être on arrivera à une amélioration des résultats des élèves, notamment dans l'enquête Teams. Merci beaucoup de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.